CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, exceptionnellement et au débeauté, c'est Jonathan Bord ici même au micro, en remplacement très temporaire de Jonathan de Nuit. Avec nous autour de la table, c'est un programme un petit peu exceptionnel, et d'abord on démarre par une annonce. Vincent Amé nous fait l'amitié de la faire à ce micro.
Bonjour.
Qu'as-tu à annoncer ?
Eh bien, dans le cadre de Chaville et chez Lumène, une émission en public spéciale donc, de notre radio qui aura lieu le samedi 6 décembre à 17h et qui s'intitule « Chaville et chez Lumène et l'aube de la vie ». Donc ce sera une émission dédiée à la découverte du monde des bébés. Nous parlerons des manières, avant et après la naissance, de communiquer, se construire et se rencontrer avant les mots, ou encore de l'importance des attachements à l'autre, et donc d'amour. Nous serons guidés par le professeur Bernard Golz, pédopsychiatre, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université René Descartes, également membre du Conseil supérieur de l'adoption et de l'Association psychanalytique de France. Il a dirigé le service de psychiatrie infantile de l'hôpital Necker Enfants Malades, et enfin fondé l'Institut Contemporain de l'Enfance. Donc nous vous attendons nombreux et vous retrouverez donc toutes les informations utiles sur notre site internet.
Sur le site Facebook de l'association Vivons Chaville Ensemble. Merci beaucoup Vincent, c'est la troisième fois qu'on organise une émission sous ce format-là, et donc on est très content d'avoir l'occasion d'accueillir du public, faire des enregistrements, c'est souvent convivial. Donc on se retrouve de toute façon samedi prochain pour cet enregistrement public,
et
je crois qu'on se retrouvera également lundi prochain, puisque tu auras une chronique avec peut-être une invitée, surprise. À bientôt, Vincent. On continue dans l'immédiat notre tour de table avec Jean Barbard. De quoi vas-tu nous parler cette semaine ?
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va poser les termes. Comment l'Europe compte protéger notre modèle de société dans un contexte de guerre technologique ?
Voilà qui promet. Et puis, Monique, je crois que tu as deux invités.
Oui, j'ai...
Deux invités, pas de micro.
Deux invités, pas de micro, mais ça y est, j'ai récupéré le micro. Alors, deux invités, Béatrice Bloch et Gilbert Guillain, qui vont nous parler d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur et de littérature. Bon, mais je vous en dirai plus tout à l'heure.
Voilà, ce qui nous permettra d'embrasser à peu près tous les âges de l'enfance, depuis la toute petite enfance jusqu'à l'université. Merci. Dans l'immédiat, on démarre avec Jean Barbard.
De tout et de rien avec Jean Barbard.
Mesdames, Messieurs, à votre avis, qu'est-ce qui permet à une puissance industrielle de maintenir un projet de société ? La régulation. Oui, ce mot qui fait bâiller les ingénieurs et trembler les géants du numérique. Alors pourquoi j'en parle ? Parce que l'Europe, c'est ce continent paradoxal. Le seul endroit au monde où on s'excuse presque d'être puissant, le seul bloc qui a dit « nos données ne sont pas à vendre, les humains d'abord, le marché après ». C'est le continent du RGPD, du principe de précaution, du « non, vous ne ferez pas n'importe quoi avec nos enfants pour entraîner une IA ». Le continent qui retarde les lancements de produits pour vérifier trois fois la conformité. Le continent qui normalise les amendes pour le GAFAM. Pendant que nos valeurs démocratiques tiennent telles avec des cure-dents. La question est brûlante. Et voilà qu'en 2025, l'Europe lance un grand plan de simplification réglementaire, omnibus numérique. Allègement, flexibilité, innovation, compétitivité, on croirait lire une brochure de la Silicon Valley mais imprimée sur du papier recyclé FSC. Parce que là où le bât blesse, c'est sur l'usage qu'on fait de l'IA. Et vous la sentez venir, la question à un bal. Alors à votre avis, quel pourcentage de l'IA mondiale sert aujourd'hui directement ou indirectement des finalités militaires ?
Oula, beaucoup. Difficile à dire.
Alors à la fourchette, au pourcentage ?
Allez, on va dire 30%.
30%, me dites ?
Ouais, oui, j'aurais dit ça aussi.
Ok,
ouais.
Très bien. Vous êtes bien, vous avez exactement dans la bonne fourchette. C'est entre 20 et 30% et ça grimpe chaque année. Oui, derrière vos playlists Spotify, il y a des algorithmes capables de guider des drones, derrière les assistants conversationnels, des briques utilisées pour l'analyse stratégique. Et c'est là que l'Europe se retrouve face à un dilemme existentiel. Si elle garde son modèle ultra-protecteur, elle reste fidèle à son ADN, elle protège les citoyens, mais elle prend du retard dans la course stratégique. Si elle relâche la régulation, elle gagne en vitesse, elle arme sa défense, mais elle risque de laisser l'industrie écrire les règles. Et ça, ce n'est jamais une bonne nouvelle pour les libertés. Et on va pas se mentir, les États-Unis et la Chine se livrent une bataille acharnée, sans écouter qui que ce soit. L'avenir de l'IA est une bataille de souveraineté, pas un concours d'innovation créative. Alors oui, l'assouplissement du RGPD, ce n'est pas un débat technique. C'est un débat géopolitique avec deux questions explosives. Une démocratie peut-elle survivre sans être technologiquement puissante? Et deux, peut-elle rester démocratique en devenant technologiquement puissante? Pour conclure, l'Europe marche sur une ligne de crête. D'un côté, le déclassement, de l'autre, la dérégulation industrielle, et probablement militaire. Au milieu, un projet de société en funambule, qui tente encore de garantir la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. Comment l'Europe peut-elle rester un modèle sans sacrifier une partie de sa morale?
C'est compliqué, hein, surtout qu'il y a des pressions à l'international. On voit bien les négociations avec Donald Trump, notamment, qui se fait le porte-parole des GAFAM. Oui, c'est un vrai enjeu. Hein.
Tout à fait.
Ah, ça vous sèche.
Ok.
Ouais. C'est sûr que avec tous les débouchés militaires en plus.
Ouais, c'est très compliqué de venir sur ces problèmes-là où on n'a pas tous les temps.
On n'a peut-être pas besoin d'être aussi performant militairement que ça. Hein. On a peut-être, comme tu l'as dit, d'autres valeurs à défendre. Et si on n'est pas parmi les premiers militairement, ben on s'en fera une raison. Hein.
D'où la vanité des discours bellicistes qu'on entend en ce moment.
Eh bien, voilà nos deux invités qui prennent la parole pour la séquence suivante. C'est tant mieux, ça sert à ça, une table de radio. On part, Monique, pour apporter de parole avec tes deux invités. Oh, oui. Jingle.
À portée de parole, les Chavillois prennent le micro.
Alors, Béatrice Bloch est professeure de littérature française à l'université de Poitiers. Elle va faire le point sur la situation de l'enseignement secondaire et supérieur dans un contexte de restrictions budgétaires extrêmement sévères. Elle est par ailleurs membre du SNESSUP, hein, c'est-à-dire le syndicat de l'enseignement supérieur qui appartient à la Fédération syndicale unitaire. Gilbert est professeur honoraire de lettres et culture générale en classe préparatoire. Il nous présentera quelques réflexions du livre auquel il a participé, et en particulier une étude de l'œuvre de Jules Verne, présenté comme un auteur pour la jeunesse, mais pour lequel on peut se poser la question, est-ce un écrivain politique? Alors Béatrice, à toi d'abord, l'enseignement secondaire, de quoi souffre-t-il?
Il y a beaucoup de souffrance dans l'enseignement secondaire, et la première cause, c'est la question de la baisse du budget. 4000 postes seront supprimés pour 2026, alors que les 4000 postes ont été sauvés l'année dernière en 2025. Donc on peut se dire que la situation est assez dramatique. Le projet de loi de finances 2026 voit un changement historique et symbolique, puisque c'est la première fois que le budget de l'armée, avec 68 milliards, passe devant celui de l'éducation nationale, avec 64 milliards. Donc, bien sûr, le gouvernement s'appuie sur le fait qu'il y a une baisse démographique. Elle est réelle. Mais quand on compare ce qui se passe en France avec le reste de l'OCDE, on voit que les professeurs sont plus âgés en France, qu'ils ont plus d'élèves dans chaque classe, qu'ils sont moins bien payés, et que le milieu de carrière est oublié, avec des salaires inférieurs de 14% à la moyenne des pays. Et plus grave encore, il y a plus de contractuels dans le second degré en France que dans les autres pays. On a 9% de contractuels. Voilà, donc 4000 postes disparaissent, dont 2000 dans le premier degré et 1500 dans le second degré. On déplore aussi le faible accompagnement des élèves en situation de handicap, puisqu'il y a 42 000 élèves qui sont toujours en attente d'AESH, c'est-à-dire des adjoints d'enseignement qui aident les élèves en situation de handicap à être mis en classe avec les autres.
Il y avait aussi une histoire de profs manquants, pas remplacés, et ça atteignait un pourcentage impressionnant.
Oui, il y a un pourcentage très grand d'enseignants qui sont non remplacés. On atteint autour de 9% de cours qui n'ont pas lieu. En tout cas, en 2022, c'était 9%, et ça ne cesse de croître. Alors pourquoi? Eh bien, il y a une raison très simple, c'est que au lieu qu'on ait des remplaçants qui soient des vrais titulaires, on fait appel systématiquement à des contractuels. Pour le premier degré, c'est-à-dire pour l'école primaire, les remplaçants sont des contractuels à hauteur de 17%, et pour le collège et le lycée, à hauteur de 46%. La conséquence, elle est très simple, c'est que les contractuels sont précarisés, la fonction est moins attractive, les gens sont moins payés. Donc, on manque de plus en plus d'enseignements remplaçants. Et ce qui se passe, c'est que dans certaines régions, les plus défavorisées, comme par exemple dans la ville de Saint-Denis, on a sur un cursus total les élèves qui perdent jusqu'à l'équivalent d'une année de cours. Parce que comme c'est un endroit... qui est assez difficile, eh bien, la conclusion, c'est qu'on envoie des jeunes et des profs contractuels. Et donc, voilà, ils ne sont pas assez nombreux pour être remplacés.
Et pour l'enseignement supérieur, quelle est la situation budgétaire et quelles sont les conséquences pour les universités ?
Eh bien, sur les 32 milliards de l'enseignement supérieur, on en perd 3,5% à peu près chaque année. Donc, c'est une situation qui est relativement dramatique. Là aussi, qui s'appuie sur des baisses... l'argument pour baisser, c'est de dire qu'il y a une baisse démographique. En réalité, la situation est véritablement dramatique, puisque actuellement, les établissements d'enseignement supérieur ont l'autonomie. C'est eux qui cherchent leur propre financement et l'État se désengage de plus en plus. La conséquence... c'est que le risque devient très grand de devoir obtenir des financements en demandant aux étudiants de payer. Et ça va être très grave, parce qu'au lieu qu'une année de cours soit à 350 euros, elle pourrait monter à 2300. D'où on voit que l'État, dans sa fonction redistributrice, se désengage. Et c'est à chaque famille de faire un effort. Et pour nous, c'est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose que nous refusons.
D'autant plus qu'on sait que la situation des étudiants depuis le Covid est vraiment souvent très très compliquée. Galère pour se nourrir, galère pour se loger. Donc ce genre de projet ne risque pas d'améliorer les choses.
Oui, c'est déjà le cas actuellement parce qu'on a un règlement sur les étudiants extra-européens. Et ces étudiants étrangers extra-européens, on demande que leur droit d'inscription soit haussé de 1 à 10. Alors, certaines universités prennent la décision de ne pas le faire, mais beaucoup d'universités se trouveront en déficit. Et c'est le cas, par exemple, de l'université de Poitiers. Comme 70% des universités françaises, nous tapons chaque année dans notre fonds de réserve, ce qui fait qu'en un an, on a déjà absorbé un tiers de notre fonds de réserve. Ça veut dire que dans 2 ans, on pourrait mettre la clé sous la porte.
Oui, c'est effectivement des perspectives assez inquiétantes. Et que peux-tu nous dire ou que doit-on penser de Parcoursup et de mon master ?
Ah oui, Parcoursup, alors c'est une invention diabolique. Avant, on avait le système APB. C'était un système qui permettait à tout étudiant, normalement, enfin à tout élève qui avait le bac, de trouver une place à l'université librement. Mais il y avait quand même quelques cas où c'était difficile, en psycho, en STAPS, en droit. Et du fait que ça devenait difficile dans ces trois domaines, on a voulu tout changer en mettant en place un système où les formations devaient elles-mêmes choisir les étudiants qu'elles prendraient. Donc, les élèves étaient amenés à faire des vœux pour que les filières choisissent qui elles demanderaient. Il y a eu donc nécessité pour les étudiants de construire un dossier, mise en place d'un contrôle continu. Et chaque université est désormais libre de fixer des capacités d'accueil limitées. Elle peut donc refuser de prendre certains élèves, certains étudiants. En outre, pour trier les étudiants qu'on va bien vouloir accueillir dans les murs de cette université, on met en place un algorithme. Et cet algorithme, il a quelque chose de dramatique dans le sens où il va prendre en compte la distance entre l'étudiant et le lieu de formation, ce qui fait que certaines villes qui sont assez éloignées des centres universitaires se trouvent pénalisées. Les étudiants de cette ville se trouvent avoir un coefficient négatif dans l'attribution par l'algorithme. Et ils se trouvent donc classés très très loin dans les listes d'attente pour pouvoir choisir leur établissement. Voilà. Alors,
c'est quand même, la mise en place d'une sélection comme ça à ce niveau-là, c'est un truc, générationnellement parlant, là, ça veut dire que les jeunes qui rentrent dans l'université sont vraiment mis pointés du doigt. Enfin, ils ont une responsabilité sur leur parcours qui est complètement disproportionnée par rapport à ce qu'on a connu à une autre époque.
Bien sûr. Et alors, en plus, on leur demande à ces élèves, dès la première, de choisir 2 spécialités, comme si on pouvait déjà choisir 3 spécialités en première. première et deux seulement en terminale. Et comme chacune de ces spécialités a un coefficient 8, bah, si l'élève s'est trompé, eh bien, ça lui est fatal au moment, évidemment, où l'algorithme va analyser le dossier de l'élève. Donc, bon, on est dans la sélection et on est dans la nécessité de spécialiser un jeune qui, par définition, a encore tout l'avenir devant lui.
Et tu voulais peut-être dire un mot sur le parcours des enseignants, des élèves enseignants, des futurs profs.
Oui, alors le gouvernement a décidé de modifier la manière dont sont recrutés les enseignants. Autrefois, ça se faisait après un master 1 dans la discipline. Aujourd'hui, c'est dès la licence que les futurs professeurs sont sélectionnés. Alors, il y a deux cas. Pour les professeurs des écoles, ce sera un cursus pluridisciplinaire qui sera mis en place dès la licence, mais du coup, sans spécialisation. La difficulté, c'est que si l'étudiant se rend compte qu'il n'est pas fait pour les métiers de professeur des écoles, il ne pourra pas se réorienter facilement. En outre, pour les reçus au concours, il y aura une poursuite d'études en Master 1, mais pour ceux qui auront échoué, il y aura beaucoup moins de places en Master 1. Donc ça, c'est une réforme qui ne nous semble pas souhaitable. Et ensuite, pour les professeurs de lycée et collège, ce sera une préparation de concours dès la licence. Autant dire qu'il y aura moins de connaissances disciplinaires, puisqu'il faudra, dès la licence 1, 2, 3, commencer à préparer le concours de recrutement. Autant d'heures de cours en moins dans la spécialité. Le niveau des épreuves sera forcément allégé, puisque les épreuves se passeront en licence 3 et non pas en master 1. Alors bien sûr, les élèves professeurs peuvent être satisfaits puisque dans un premier temps, en Master 1, ils seront payés, ce qui peut être favorable apparemment. Mais en réalité, on se rend compte que dès le Master 2, ils seront mis en responsabilité devant des classes et ça se retournera finalement contre eux puisqu'ils auront une moins bonne formation.
Merci Béatrice. Gilbert, est-ce que tu veux réagir un peu et nous donner ton avis sur la politique de l'éducation actuelle ?
Oui, je vais réagir immédiatement. Je précise également que j'ai été pendant très longtemps au SNFOLC, le syndicat Force ouvrière des lycées et collèges, lorsque j'étais en lycée. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Béatrice concernant Parcoursup en particulier. C'est comme un système extrêmement angoissant et extrêmement stressant pour les élèves, et on en a des échos dans la mesure où il s'agit pour eux d'avoir une orientation anticipée. Donc c'est négatif et c'est à voir complètement. Bien. Alors, il y a également, je vais parler ici de l'enseignement secondaire, le bac Blanquer. Hein. Le bac Blanquer, on est déjà dedans, ça fait déjà 4-5 ans qu'on est dedans. Alors, le bac Blanquer, il est centré autour essentiellement du contrôle continu. Avant, il y avait l'examen final, de toute façon. Alors, contrôle continu, ça veut dire, au sens négatif, du bachotage. Je m'aperçois que les élèves sont constamment sous pression. Exercice de ceci, devoir de cela, dissertation de ceci, etc., etc. Ils n'ont pas de recul, ils ont peu de recul par rapport, en fait, à ce qu'ils étudient. Donc, c'est extrêmement négatif. Et ce qui manque aussi, c'est la culture générale. Ça, c'est dramatique. Pour la bonne raison, c'est que, par exemple, en français, il y a des objets d'études, roman, théâtre, poésie, argumentation, littérature d'idées, et puis ils ont une œuvre complète et obligatoire, et ils ont une œuvre secondaire. Bon, donc ils connaissent bien, voire très bien, les œuvres complètes parce qu'ils se sont gavés de ces œuvres, mais pour le reste, c'est mal connu. Et donc l'histoire littéraire a été quasiment escamotée. C'est pas le cas en philo parce qu'il y a 17 concepts et les profs de philo ont maintenu quand même le programme. Mais enfin, en français, j'exagère à peine, on va mettre Baudelaire au XVIIe siècle et puis Marivaux au Moyen-Âge. Donc c'est dramatique pour ce qui concerne leurs études supérieures. Alors, il y en a également aussi, il faut en parler, ne pas hésiter à en parler, parce que je pense que beaucoup de profs sont laxistes par rapport à ça et acceptent la technologie comme une sorte d'évidence moderne, rationnelle, etc. C'est l'invasion du numérique. L'invasion du numérique, hors de propos et à tout propos. Moins de livres, du numérique, une communication permanente avec les parents à toute heure, ça c'est négatif. Et l'intelligence artificielle qu'on nous présente aussi comme étant une panacée. Il faut bien savoir qu'on le disait, on l'avait dit en 68 d'ailleurs, la technique n'est pas neutre, elle induit certains comportements. Donc l'IA, comme le numérique, de toute façon, déjà au niveau cognitif, c'est de toute façon c'est pas terrible. Bon, c'est intéressant pour quelqu'un qui aurait déjà de la culture générale, alors il se sert de Facebook, Wikipédia, etc., du numérique, de son portable, et il arrive à croître ses connaissances, à approfondir. Mais le jeune collégien va zapper d'un site à un autre, et finalement, ça s'inscrit pas dans une culture, donc c'est pas formateur. Le dernier point à citer aussi, qui n'a pas été envisagé, c'est le harcèlement. On parlait tout à l'heure de la déstabilisation des familles, et aussi le fait que les élèves sont habitués à peu verbaliser, à peu argumenter, et donc faute de polémique et faute de verbalisation, on en vient au coup de poing. Alors ça, vous me direz, de toute façon, le harcèlement existait toujours parce qu'il y avait des bagarres dans les cours de récréation. Certes, mais en fait c'était différent. Alors ça passe par l'éducation et la culture, et non pas par une avalanche de décrets. On peut pondre autant de décrets que l'on veut, de ce point de vue-là, ça serait négatif. Donc le tableau fait, je ne suis pas du tout décliniste, ce discours qu'on entend à droite, tout fout le camp, c'était mieux avant, etc. Bon, il est vrai que la société des années 60-70 était peut-être plus libre, et plus vivante, même si elle avait des défauts, puisque du temps de De Gaulle, on disait de ne pas avoir les cheveux trop longs, etc., etc. Mais enfin, le bilan est quand même, pour être réaliste, assez sinistre. Voilà, j'ai terminé pour ce point.
Bien, alors, est-ce que tu peux maintenant nous présenter le livre auquel tu as contribué ?
Alors, chaque année, donc je réalise des livres hors programme qui sont sur la contraction, la synthèse, l'histoire des idées. Ça, c'est valable dans les prépas depuis longtemps. Et puis chaque année, il y a un programme différent. Je ne vais pas faire l'énumération des programmes. En prépa commercial, EC, on appelle ça EC, le H est tombé. Cette année, c'est jugé. Et en scientifique, où il y a 35 000 étudiants en scientifique, 12 000 en commercial. L'année courante, c'est expérience au pluriel de la nature. Ce que l'on vit de la nature, comment on l'expérimente, et le ressenti de l'homme par rapport à la nature. Avec trois auteurs, j'en citerai simplement deux, et je vais m'occuper de un. C'est Georges Canguilhem, qui est de façon philosophe, qui visiblement préfère le concept d'organique au concept de mécanique. J'en parlerai aussi parce que Jules Verne souscrit un peu à ce point de vue, d'une part, et Jules Verne. Alors on va consacrer quelques minutes à Jules Verne.
Ah.
Mais on ne va pas faire un descriptif très détaillé. L'œuvre, c'est 20 milieux sous les mers. Bon, alors...
Eh bien, voilà. Est-ce que Jules Verne est représentatif du 19e siècle ?
Oui, alors, disons, pour les... Jules Verne passe pour un auteur pour la jeunesse, mais on peut, comme Alexandre Dumas ou Jack London, on peut aller plus loin en essayant de voir un peu les sous-entendus philosophiques qu'il y a dans l'œuvre. Oui, la réponse est oui, il est représentatif du 19e, qui est un siècle dans lequel on veut tout connaître, tout savoir et tout explorer, notamment par ce genre qui est dominant au 19e siècle, qui est le genre du roman. Bien. Donc, il mérite d'être relu, y compris Alexandre Dumas aussi. Il s'agit pour le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est l'âge du positivisme, la connaissance des faits posés. Je ne parle pas des faits positifs par opposition à négatif. Les faits posés, c'est l'âge du scientisme, dominer le monde par la science, d'une part, du rationalisme aussi, et de l'industrialisme. Donc, il ne faut pas tout de suite assimiler Jules Verne à ses tendances, dans la mesure où la nature, il s'agit pour lui de la découvrir, essentiellement, de la découvrir et de l'admirer, à travers une œuvre qui n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, une œuvre de science-fiction, mais une œuvre fantastique. On distingue, mais on ne va pas le faire ici, on fait une distinction en littérature entre d'ailleurs le fantastique et le surnaturel. Le sous-marin Nautilus découvre des horizons extraordinaires et fantastiques et des animaux, des poulpes, des crustacés, des homards, des baleines, jamais vus. Et puis il se trouve parfois dans des situations éprouvantes, il est bloqué sous la glace, pris dans les tempêtes, et donc tout cela est évidemment assez palpitant. Donc il s'agit plus d'admirer la nature que de dominer la nature.
Est-ce qu'il n'y a pas... Oui. Et la dimension politique ?
Oui, alors la dimension politique, c'est important. Donc nous avions parlé avec Monique d'un professeur connu, c'est Jean Chesneau, qui a écrit Une lecture politique, Jules Verne, publié aux éditions La Découverte. Disons que l'individualisme libertaire, j'ai expliqué cette expression, s'adresse bien à Nemo. Nemo, c'est personne. Déjà, alors, c'est-à-dire, c'est, y a une dimension qui, déjà, qui échappe à la raison. Nemo, c'est personne. Et puis, on ne sait pas ce qu'est ce sous-marin. Au départ, on met un certain temps à comprendre que c'est un engin mécanique. En plus, on ne sait pas qui est Nemo réellement. Donc il y a un côté individualiste parce que c'est un peu Nemo, un ingénieur génial et un savant fou. Le savant fou, c'est aussi d'ailleurs un mythe bien connu. Alors, il est poli avec les trois naufragés qui viennent à bord, mais il est distant et impénétrable et on ne sait pas qui c'est. On joue sur le mystère et là il y a un côté évidemment romantique absolument évident au 19e siècle. Libertaire parce que au banc, il se met en marge et il se met au banc de la société. Il déteste les pouvoirs établis de toute façon. Et on s'aperçoit aussi à certains passages qu'il soutient les révoltes des nationalités, la Pologne, l'Irlande et celles d'autres peuples, ce qui est aussi un trait politique du 19e siècle. Il y a au 19e siècle, il y a quand même en 1848 des aspirations libertaires.
Le printemps des peuples.
Bon, comment ?
Le printemps des peuples.
Exactement, le printemps des peuples auquel souscrivent un ensemble d'intellectuels qui s'enthousiasment pour la Pologne, la Grèce et l'Irlande, qui ne sont pas à l'époque des nations indépendantes, mais qui sont là sous la tutelle des grandes puissances. Je dirais que pour terminer sur Jules Verne, il y a une évolution quand même que je trace dans une partie du livre, mais à la fin, marginale, de Jules Verne, à la fin de son œuvre, vers 1880, où l'œuvre est beaucoup plus pessimiste en réalité. Elle est optimiste peut-être au départ et pessimiste à la fin. C'est-à-dire qu'on voit l'oppression, le colonialisme, la domination, les inégalités, des cliques, des bandes, des spots qui s'affrontent en fait les uns les autres et ça rentre dans une littérature assez réaliste, assez pessimiste et assez noire. Tel qu'on la trouve aussi, c'est l'écrivain américain Jack London. Mmh. Je pense par exemple au roman Le Talon de Fer, qui est clair, les uns écrasent les autres. Donc le monde n'est pas fait d'idéalisme, cet idéalisme optimiste qui a été légué par les Lumières.
Oui, on peut dire quand même qu'il a été conseiller municipal à Amiens,
oui, exactement.
Jules Verne.
Il a créé un cirque municipal à Amiens. Ouais. C'était un notable, quand même un notable assez républicain, assez engagé, assez modéré par son éditeur Jules Hetzel. Et il avait une maison au Crotoy. Le Crotoy dans la baie de Somme, cette grande baie de Somme que je conseille aussi à tous les touristes, à tous ceux qui veulent voir le grand large, avec l'ouverture vers l'infini. Comme on l'a aussi au nord de la Manche, ou dans d'autres en Irlande, ou dans d'autres endroits.
Mais dans sa phase, disons, politique réflexive de la première partie de sa vie, il est quand même influencé par Fourier et le saint-simonisme. Hein. Il a quand même un peu baigné
il fait l'éloge des transports, de la vitesse, de l'industrie, et il plaide pour peut-être le remplacement des intellectuels, des esprits traditionnels un peu bavards, par des gens plus efficaces et en fait plus compétents. Ça, c'est le côté positivisme. Tu disais également, donc, outre le positivisme.
Non, c'est ça. Non, je voulais dire qu'il avait une petite influence quand même chez les socialistes.
Oui, oui, il a une influence saint-simonienne, mais elle est assez générale au 18e siècle. Ouais. J'avais quelques informations à la...
Tu veux
passer... des informations...
Tu veux donner informations,
oui, à donner à la fin.
Vas-y.
Deux informations.
Juste sur Jules Verne, je fais juste une petite parenthèse, parce qu'on est à bâton rompu. C'est marrant que tu dises que c'est pas de la science-fiction, mais du fantastique, parce que finalement, aujourd'hui, quand on le lit, c'est rétro-futuriste quasiment. C'est-à-dire que c'est ce qu'on imaginait comme étant l'avenir au 19e siècle. Il y a toujours une lecture contemporaine qui est très... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit une description d'un hygiaphone ou d'un escalier mécanique, ça nous paraît des évidences, alors qu'il y avait quelque chose d'incroyable.
D'accord, mais toute la science-fiction n'est pas exactement ce qui se produit, d'une part. Ce qu'on envisageait dans la futurologie dans les années 60 n'est pas exactement ce qui s'est produit. En plus... Je disais que c'est plus du champ de la science-fiction, plus du fantastique que la science-fiction. Il ne faut pas croire que la science-fiction prédit exactement. La science-fiction, nous renseigne sur le moment où elle est produite, autant que sur le moment dont elle parle à l'avenir.
Tout à fait.
Voilà. Alors,
deux informations
pour terminer, il y en a pour deux minutes.
Vas-y.
Donc, moi, je crois, comme vous tous, à l'éducation populaire, en conséquence de quoi, n'étant plus en activité depuis 10 ans, je fais des cours bénévoles en philo et en lettres, donc, en langue, en anglais, en espagnol, donc ça va de la 6e à Bac plus. Si on souhaite bénéficier de cela, on me téléphone le soir, 07 87 55 17.
Super.
Je le répète parce que je parle peut-être rapidement pour l'auditeur. 07 87 55 17 58. Alors bon, il ne s'agit pas d'avoir 20 élèves bénévoles, mais enfin de quelques-uns. En plus, alors, pour terminer aussi, quelques ouvrages, parce que étant en retraite, j'ai beaucoup le temps de lire et d'approfondir. Et alors qu'en activité, je lisais toujours des morceaux consacrés, quand on est en retraite, on peut vraiment en fait approfondir. Bien, alors il y a par exemple le livre de Tiberge, La droitisation française, mythe et réalité.
C'est passionnant.
Oui, c'est publié au PUF, hein, Vincent Tiberge, La droitisation française, mythe et réalité. Alors, il y a deux livres publiés aux éditions Amsterdam, Extrême droite, la résistible ascension, par Hugo Paletta et Johan Chapoutot, qui est quand même maintenant extrêmement connu, et Nouveau Peuple, Nouvelle Gauche. Ouvrage coordonné par Julien Talpin. Leur thèse, c'est qu'ils essaient d'étudier les tendances sociales, le bruit de fond, en quelque sorte, médiatique, les tendances économiques, les tendances sociales, qui vont vers la droitisation. Ils expliquent qu'ils ne pensent pas qu'il y ait 40 millions de fachos en France, mais qu'il y a des tendances de la société, une certaine configuration sociale, le problème de la classe ouvrière, l'individualisme, l'affaiblissement de liens sociaux qui implique un mauvais sens politique. Et puis, pour terminer, il y a de Benoît Coquart, Ce qui reste, c'est publié aux éditions La Découverte, Ce qui reste, Benoît Coquart, Faire sa vie dans des campagnes en déclin. Il y a un autre livre aussi, d'ailleurs, sur les déserts français, là où justement les classes moyennes et populaires déclinent complètement et s'appauvrissent complètement parce que l'avenir scolaire des jeunes est mal assuré, moins bien assuré qu'en région parisienne, et puis les services publics aussi s'en vont.
Voilà, un grand merci. Merci Gilbert, merci Béatrice, c'était tout à fait intéressant.
Oui. Merci pour cette discussion à bâton rompu. On aura notamment appris qu'il n'y a plus de H à HEC. Est-ce que ça veut dire que ça a baissé? On ne sait pas. En tout cas, on vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'oubliez pas non plus notre enregistrement en direct pour l'émission de samedi 6 décembre. À bientôt, c'était Jonathan Bord avec toute l'équipe. Au revoir.
Au revoir.